Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de portraits dans Priorité Santé. Ces portraits que l'on retrouve tout au long de cette semaine, entretien avec des femmes, avec des hommes, médecins, praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels pour le bien-être du plus grand nombre. Bonjour, docteur Ronnie Broman.
Bonjour.
Vous êtes médecin diplômé en médecine tropicale et épidémiologie. Entre 1982 et 1994, vous avez été président de Médecins sans frontières. Aujourd'hui, directeur de recherche à la Fondation MSF. Vous participez aussi aux travaux du Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Docteur Ronnie Broman, vous êtes aussi par ailleurs auteur de nombreux ouvrages, dont le récent « Guerres humanitaires, mensonges et intox », publié aux éditions textuelles. Vous écrivez, vous enseignez, vous formez. Ronnie Broman, est-ce qu'encore beaucoup de monde s'adresse à vous en vous appelant docteur ?
Non, pas tant que ça, ne serait-ce que parce que je n'ai pas de patients. Je n'ai pas de consultation, je ne reçois pas de gens qui viennent chercher un traitement. Ce sont a priori ces gens-là qui vous appellent docteur. La plupart des gens que je côtoie sont soit des étudiants à qui j'enseigne, à ce moment-là ben, je suis leur prof, mais ils ne m'appellent pas docteur. Soit mes collègues à Médecins sans frontières, et on s'appelle par nos prénoms.
Et aujourd'hui, on vous considère davantage comme un penseur ou encore comme un médecin ?
Ça, c'est difficile. Je ne sais pas comment répondre, parce que ce sont d'autres qui pourraient le dire à ma place. Moi, en tout cas, je me considère encore comme un médecin, bien que cela fasse maintenant plus de 20 ans, 25 ans même, que je ne pratique plus. Mais ma formation médicale et d'une certaine manière ma culture médicale, une culture qui est orientée vers à la fois le dépistage, le diagnostic et le résultat, c'est-à-dire une amélioration, voire une guérison du patient. Tout ça, c'est ce que j'appelle une forme de culture médicale que j'applique aussi à d'autres domaines que la médecine, avec prudence, parce que la médecine a sa logique et qu'elle peut pas être étendue partout. Mais il y a tout de même un certain nombre d'éléments de structure, comme tenter de comprendre ce qui se passe et tenter d'apporter un résultat, une amélioration, voire une élimination du problème à certains moments. Donc tout cela me sert encore. Et quand je vais sur le terrain pour des visites relativement brèves, de 15 jours, 3 semaines, parce que c'est maintenant ce genre de séjour que je fais sur le terrain avec Médecins sans frontières, mes origines médicales, si je puis dire, me servent beaucoup à discuter avec mes collègues de l'orientation d'un programme, de la part à donner à la santé publique et à la part à donner à la santé clinique, à la médecine individuelle. Donc tout ça compte beaucoup pour moi. Donc moi, je me considère encore comme médecin. Je ne m'appelle pas moi-même docteur, naturellement, mais je me considère encore comme un médecin qui a, par ailleurs, débordé de son champ. Par exemple, le livre dont vous parliez, « Guerres humanitaires », n'a absolument rien de médical, mais il est écrit avec en tête des préoccupations qui relèvent de ce que je vous disais, c'est-à-dire tenter de comprendre une situation, un processus, de faire un diagnostic précis et de voir quel type de traitement s'applique au mieux. Donc cette volonté de trouver des voies de sortie d'une situation, voire de constater qu'il n'y a pas de voie de sortie et qu'il faut s'habituer à ce que cette situation perdure, ça existe, il y a des problèmes qui n'ont pas de solution, auquel cas on doit les aborder différemment, plus en tant que problème, mais en tant qu'une réalité avec laquelle il faut composer.
Ses limites.
Admettre ses limites, exactement. Voilà, tout cela, c'est ce que j'appellerais ma culture médicale, même si je ne m'appelle pas, et si on ne m'appelle que rarement, docteur.
Il y a une vingtaine d'années, vous le disiez, vos dernières consultations, vous vous souvenez qui c'était ce dernier patient ? On parle du patient zéro, vous, votre ultime patient.
Mon ultime patient, à vrai dire, n'était pas... vous me prenez de court, là. C'était au début des années 90, donc ça devait être en 90-91. Je ne sais plus dans quel pays c'était.
Les dernières missions ou une dernière mission qui vous aurait marqué ?
Il y en a trop pour que j'en isole une. Disons, J'ai été sans doute plus marqué, j'ai des souvenirs plus précis de mes premières missions, parce qu'il y avait en quelque sorte un cerveau vierge sur lequel se sont imprimées des images, des mots, des sensations, des relations, des expériences qui sont plus durablement imprimées que d'autres qui sont venus à la suite. Et donc mes premières expériences, en particulier au Bénin avec Medicus Mundi, avant Médecins Sans Frontières.
1976.
Voilà. Puis, enfin, après un rapide séjour à Djibouti, à titre individuel, ça compte pas beaucoup. C'est la Thaïlande, les camps de réfugiés de la frontière laotienne, avec Médecins Sans Frontières. Et là, je me souviens vraiment assez précisément de beaucoup de choses, mais mon débarquement à Bangkok, ma découverte de ce qu'était un camp de réfugiés, c'était la première fois que je pénétrais dans un espace comme celui-ci, à la fois de liberté locale et de confinement par rapport à la région. C'était des camps fermés où des gens étaient donc en quelque sorte prisonniers, bien qu'il n'ait rien à se reprocher, en tout cas aucun crime. Et tout cela, je m'en souviens bien, comme des premiers patients avec certaines imprécisions, certains malentendus, par exemple des mères qui consultaient souvent parce que leur enfant avait des problèmes d'appétit. Elles estimaient que leur enfant, enfin elles étaient inquiètes pour leur enfant qui selon elles ne mangeait pas assez. Or, en Thaï, manger, ça se dit kinkao, des rudiments de Thaï, hein, je ne présente pas du tout, c'est-à-dire manger du riz. Mm-hmm. On ne dit pas manger tout court, on dit manger du riz même quand on mange autre chose que du riz. Or, mon interprète me traduisait la plainte de la mère de façon littérale en me disant « Mon enfant ne peut pas manger de riz ». Et c'était pour moi extrêmement déroutant, parce que je me dis « Mais mince, s'il ne peut pas manger de riz, qu'est-ce qu'il va manger ?» Le riz constitue, un peu comme le pain au 19e siècle en France, constitue 80-90% de la nourriture. Et j'ai été au départ très dérouté, donc je cherchais des nourritures complémentaires. Enfin, j'administrais de mauvais traitements, enfin des traitements à côté de la plaque.
Il voulait dire manger à sa faim, tout simplement.
Non, il veut dire qu'il est mal fichu, il mange pas suffisamment. Mm-hmm. Comme un gamin qui a la rougeole ou un petit syndrome infectieux et qui tout de suite refuse de manger sans que ça ait le moindre caractère de gravité. L'important est qu'il boive plutôt qu'il mange, parce que c'est là que le danger peut survenir par une déshydratation, mais le gamin ne va pas mourir de faim, loin de là. Et moi, voilà. Donc, ce genre de malentendu de traduction, donc de compréhension, qui a des répercussions sur le traitement, ça m'est resté, parce que la façon dont on verbalise, dont on formule une plainte, dont on verbalise un trouble physique, est extrêmement importante. Et tout au long de mon parcours, disons, de médecin soignant, qui a duré en gros 7-8 ans. Hein. Ensuite, j'ai continué à pratiquer de temps à autre, mais c'était plus le gros de mon activité quand j'étais président d'MSF, par exemple. Donc tout au long de ces 7-8 ans de pratique de terrain, j'ai toujours été frustré lorsque je ne pouvais pas comprendre, ce qui était très souvent le cas en Afrique, les gens parlant la langue locale que je ne maîtrisais pas du tout. Et il y avait une profusion de signes. Vous voyez, le patient explique des tas de choses. Et puis, au bout de 3 minutes, l'interprète...
Il vous en arrive une partie insuffisante.
Il a le corps chaud, il s'est fait mal, il est tombé. Et puis, en l'espace de 15 secondes, c'est réglé. Et on perd toute cette symptomatologie fleurie, parfois poétique, quand on entre dans le détail, mais parfois révélatrice de choses qu'on n'aurait pas compris si les détails n'avaient pas été donnés. Et ça a toujours été une perte... Mon rêve secret était de pouvoir être polyglotte, de pouvoir m'adresser à tout le monde dans sa langue, parce que d'abord sur le plan humain c'est bien plus agréable, mais également sur le plan professionnel, sur le plan médical, ça décèle des richesses, des curiosités à côté desquelles on passe malheureusement. Et ça a toujours été un regret pour moi.
Quand on voit votre parcours, on voit l'adjectif humanitaire qui revient, mais sous différents sens, associé à pas mal de mots, à pas mal de concepts, crise humanitaire, guerre humanitaire. Et on va commencer par la médecine humanitaire. Comment est-ce que vous définissez, Ronny Broman, cette médecine humanitaire ?
La médecine humanitaire, c'est d'abord de la médecine, c'est-à-dire des soins médicaux prodigués à des gens qui en ont besoin, mais qui se déroule dans un certain contexte, par exemple qui est administré gratuitement à des gens qui a priori n'auraient pas accès à ces soins si ceux-ci n'étaient pas mis en œuvre gratuitement par une institution spécialisée. Donc ça recouvre des tas de choses, ça peut aller de la vaccination à l'éducation thérapeutique, en passant par la chirurgie d'urgence ou des campagnes contre les grandes endémies. Enfin, tout cela peut relever de médecine humanitaire. Disons que c'est une médecine qui, bien souvent, se comprend aussi dans un cadre de situation. Catastrophes naturelles, conflits armés, déplacements de population, épidémies aiguës. Ça, ce sont, disons, les catégories de situations. Je cite celle que Médecins Sans Frontières s'est donnée d'abord pour cadre, avant de déborder ce cadre. Et des situations que chacun, finalement, a à l'esprit quand on parle de médecine humanitaire. Mais en fait, il y en a également bien d'autres. Rappelons-nous ces bons vieux hôpitaux missionnaires qui, certes, avaient pour objectif aussi d'installer la religion chrétienne dans des endroits où elle n'avait pas cours. Donc il y avait qui poursuivait un intérêt autre que le soin médical, pendant un certain temps en tout cas, mais enfin, qui était soin médical qui était quand même délivré à titre gratuit, dans une attitude bienveillante, et qui donc relevait de la pratique humanitaire. Donc c'est pas tant le geste médical lui-même que la situation dans laquelle il se déroule et l'intention avec laquelle il est donné. C'est-à-dire,
Du côté de ces intentions, celles et ceux qui l'exercent, ceux que vous voyez, on peut dire, s'engager, parce qu'il y a un côté un peu vocation dans cette médecine humanitaire, qui se destine à cette médecine humanitaire. Est-ce que vous avez relevé, Ronnie Broman, des traits communs de personnalité, d'origine, de parcours de ces médecins?
Disons que en surface, sûrement pas. On a la même diversité dans le personnel médical, humanitaire, et d'ailleurs dans le personnel humanitaire en général, que celle que l'on observe dans la société autour de nous en général. Je n'ai pas vu de point. En revanche, j'ai en tête une étude sociologique qui a été menée par deux universitaires français, Johanna Siméan et Pascal Bovin, dans un livre qui s'appelle « Le travail humanitaire », et qui a notamment pris pour objet d'étude Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, donc les deux principales organisations médicales humanitaires. Et là, j'ai découvert qu'un grand nombre, disons une proportion beaucoup plus importante que celle que j'aurais imaginée, de nos membres, de nos équipes, avait d'une part une certaine pratique religieuse. Ça n'est pas mon cas, mais il y a plus de pratiquants religieux dans les humanitaires qu'il y en a dans la société en général. Et pour beaucoup d'entre eux également, des gens qui avaient dans leur famille une tradition d'expatriation. Y compris d'ailleurs, ça peut paraître un peu troublant, mais c'est la réalité, y compris d'expatriation coloniale, avec un grand-oncle missionnaire, avec un autre grand-oncle ou grand-tante médecin ou agronome ou professeur travaillant dans ce qui était les colonies. Donc il y a une surreprésentation au sein des organisations humanitaires, notamment de MSF et MDM, de ces catégories. Mais surreprésentation ne veut pas dire que tous sont comme
sont issus du même moule.
Ça veut dire qu'il y a un indicateur quand même qui travaille là.
Tout à l'heure, vous avez parlé du Bénin, vous avez parlé de la Thaïlande. J'aimerais revenir peut-être au moment tournant dans votre engagement et dans ce travail à MSF. Est-ce qu'il y a, par exemple, une destination, une date qui a marqué pour vous un véritable pivot, un avant, un après, justement par rapport à une grande crise internationale?
Ah oui, là j'ai un épisode très précis, qui a été d'ailleurs très très troublant, très très stressant, qui est la famine en Éthiopie de 1983-84, et la grande opération de secours qui s'est déroulée en 84-85. Je donne les dates parce que, d'une part, bon, c'est assez ancien, donc beaucoup de gens n'en ont pas le souvenir, ou ont
beaucoup
perdu.
Beaucoup de nos auditeurs n'étaient pas nés.
Non, bien sûr. Ou ceux qui étaient nés ont sans doute perdu ce souvenir. Donc l'astuce dans le temps a son intérêt, mais aussi parce que ça montre qu'il y a un certain décalage, comme c'est toujours le cas, et ça, c'est important pour comprendre ces crises, un certain décalage entre le phénomène et la réponse au phénomène, entre l'événement et ses conséquences en matière de secours. Donc la famine, c'est 83-84, et la réponse à la famine, c'est fin 84 et année 85. Lors de cette famine, qui était due à la folie politique, une espèce de rage idéologique qui avait saisi les dirigeants éthiopiens de l'époque, qui entendaient faire de leur pays la première nation authentiquement communiste, là je cite les mots, je cite verbatim, la première nation authentiquement communiste d'Afrique. L'Angola et le Mozambique étaient déjà communistes, mais considérés comme des succès d'années peu intéressants. Le DERG, le régime éthiopien, entendaient bâtir l'homme nouveau, la société nouvelle, dans des termes que Staline ne leur aurait pas contesté. C'était vraiment l'URSS des années 30 que cela m'a permis de comprendre un peu l'attitude de ces dirigeants. Leur attitude consistait à arracher des populations entières à leur zone d'origine, à leur région d'origine, village, ville, province d'origine, pour les réinstaller de force dans de nouvelles zones économiques, à l'intérieur desquelles, précisément, cette société nouvelle allait être bâtie. Donc, d'une certaine manière, c'était un objectif moralement louable. Ces gens n'étaient pas, à proprement parler, des criminels par intention. Il y avait un régime totalitaire, mais de cette espèce de vertu totalitaire à laquelle un auteur comme Zvetan Todorov ou Hannah Arendt, des gens qui ont beaucoup compté pour moi dans ma formation intellectuelle ultérieure, nous ont préparé. Et donc, ces transferts forcés de population avaient été organisés pour permettre à l'Éthiopie de sortir d'un cycle séculaire de famine. Objectif que personne ne peut vraiment contester, enfin objectif parfaitement louable. Mais la violence avec laquelle c'était fait et les conditions qui étaient préparées pour la vie des gens qui étaient transférés étaient, elles, absolument intolérables. Et en 85, on mourait plus des transferts de population que de la famine qui était révolue. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, cette famine c'est 83-84, et en 85 ce sont les secours. Et ces secours, ils servent aussi à transférer des populations. Donc on se trouve dans une situation apparemment paradoxale où les secours sont retournés contre l'intérêt des populations et ils servent non pas à tuer, parce que c'était pas l'objectif, mais de fait leur conséquence est plus nocive que bénéfique à ceux qu'elle entendait tuer.
On va écouter tout de suite, si vous voulez bien, un extrait du 20h. On est en 84, deuxième chaîne de télé publique. Hein, à cette époque-là, ça s'appelle encore Antenne 2. Le camp de Korem, en Éthiopie, témoignage de Djibril Diallo, donc 1984. À l'époque, il était responsable de l'information pour l'Afrique à l'ONU.
L'image qui me reste encore à l'esprit, c'est celle de cette jeune mère qui se précipite vers nous à mon arrivée et qui me dit: prends mon enfant avec toi. Je n'ai plus de quoi lui donner à manger et je ne veux pas qu'il meure dans mes bras. Elle me suivait, et soudain j'ai vu l'enfant s'évanouir. Pris de panique, je l'ai pris. J'ai commencé à courir vers la tente médicale. Trop tard, il est mort dans mes bras. L'histoire de cet enfant qui avait 3 ans et qui pesait 4 kilos, alors que la plupart des bébés dans les pays occidentaux pèsent 3,5 kg et 4 kg à la naissance. Donc l'histoire de cet enfant est aussi l'histoire de 15 000 personnes qui meurent de faim chaque semaine en Éthiopie. Évidemment, il est très difficile d'établir les statistiques parce que la plupart des populations sont dans des régions inaccessibles, mais il est sûr que la sécheresse menace aujourd'hui plus de 7 millions de personnes. Pour vous donner une idée, depuis l'explosion des médias envers l'Éthiopie en octobre dernier, la communauté internationale a promis 190 000 tonnes de céréales. Alors que selon le gouvernement éthiopien, rien que pour couvrir les besoins de 50% de la population, il faut 563 000 tonnes de céréales.
Ronnie Broman, on entend ce témoignage 1984. On peut en penser une sorte de collision entre l'émotion, quand on entend ça, on entend ces chiffres, on voit la description de cette situation tragique et les décisions qui doivent être prises par une organisation comme celle que vous avez présidée, justement, faire des choix. MSF a été expulsé après d'Éthiopie, justement, par rapport à ces prises de position. Au niveau éthique, qu'est-ce que ça fait quand on a quand même des gens qui sont par centaines de milliers dans le besoin et qu'on se retrouve mis à la porte parce qu'on a fait ces choix?
D'abord, il faut resituer ça dans la chronologie, non pas par goût de la précision stérile, mais parce que c'est après la famine que MSF a été expulsé. Donc, d'une certaine manière, ça adoucit les termes du dilemme terrible. On n'a pas l'impression de laisser derrière soi des masses de gens sur le point de mourir, mais plutôt de faire éclater une vérité qui va aider ceux qui ont survécu à survivre mieux, simplement parce que le gouvernement éthiopien sera dans une plus grande difficulté pour conduire ces opérations de transfert forcé de population. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé.
Mais s'il y a une autre situation politique, Ronnie Broman, excusez-moi de vous interrompre, où MSF a dit non, nous ne partirons pas parce que la situation politique ne peut être compatible avec notre action d'un point de vue éthique.
Il est arrivé à plusieurs reprises que MSF mette un terme à ces opérations. Ça n'a pas été très fréquent.
Notamment quand il y a eu des attaques et des membres de votre personnel qui étaient assassinés.
Oui, en effet, c'est pas ça que j'avais en tête, mais vous avez raison de le rappeler. Il y a eu ces retraits lorsque MSF, enfin lorsque nous estimions que nos équipes étaient prises pour cible. Et comme il s'agit d'aider des gens et pas de venir faire la guerre, eh bien, quand on est pris pour cible, on ne sert plus à rien, sauf à... Enfin, on n'est pas là pour se suicider, quoi. Donc, là, on a retiré, mais je pensais plutôt à des... Ce que j'avais à l'esprit, c'était des situations comme en Corée du Nord, en 99, ou comme dans les camps rwandais du Zaïre en 1994-1995, donc après...
Au moment du choléra,
voilà,
au moment, la frontière.
Et après l'épidémie de choléra, lorsque les camps sont devenus des bases d'attaque contre le nouveau régime rwandais, où nous avons refusé de servir de caution, de couverture à des groupes génocidaires qui se reconstituaient dans les camps, et où nous estimions que nous n'avions aucune possibilité de lutter contre eux, enfin lutter
pacifiquement. Avec les miliciens interahamwés qui passaient à la frontière pour faire des expéditions punitives.
Voilà, et puis qui faisaient régner la terreur également dans les camps. Donc il est arrivé que nous nous retirions, et il me semble, enfin j'ai tenté de théoriser ça, vous citiez le fait que j'ai écrit plusieurs livres, et ainsi que des articles, et dans ces livres où j'ai tenté de donner quelques cadres proposition théorique à l'humanitaire, l'idée que l'abstention, c'est-à-dire le retrait volontaire, peut être une forme d'action elle-même, et n'est pas simplement un renoncement, n'est pas une façon de baisser les bras, mais une façon d'exprimer un refus, à condition que ce retrait, cette abstention, soit accompagnée de commentaires, d'un discours public expliquant les raisons pour lesquelles on le fait, et des raisons qui doivent être vérifiables et argumentées. Il me semble que c'est aussi une forme de positionnement qui relève d'une action décidée, car l'humanitaire, ce ne sont pas que des gestes, même si ce sont principalement des gestes, ce sont aussi des mots, des cadres de discours, de compréhension, qui donnent aussi un sens à ces gestes ou au non-accomplissement de ces gestes. Là, en l'occurrence, en Éthiopie, et ça a été, je dois dire, une très grande déception pour moi, et aujourd'hui encore, j'éprouve une certaine amertume en évoquant ce moment. Nous avons tenté de mobiliser le petit monde de l'humanitaire. Il y avait 35 ONG qui travaillaient en Éthiopie. C'était... À l'époque, 35 ONG, c'était énorme. Aujourd'hui, c'est par centaines qu'on peut voir des ONG dans certains pays frappés par des crises. Mais là, c'était 35, c'était le maximum. Je me suis adressé à plusieurs d'entre elles. Je suis allé sur place, après avoir commencé à parler publiquement dans la presse française. Je suis allé sur place pour expliquer notre position, pour tenter de rassembler les forces humanitaires, non pas pour attaquer le gouvernement éthiopien, mais pour demander un moratoire sur les transferts de population, non pas pour contester la politique qu'elle faisait, mais pour tenter d'en adoucir les angles vifs. C'était ça le propos. Mais ça a été impossible. Des ONG que je rencontrais, enfin des responsables, convenaient tout à fait volontiers que les méthodes de transfert étaient horribles, qu'elles causaient beaucoup de morts. Enfin bref, personne ne contestait la factualité des faits que nous avancions, mais la plupart disaient que en parler publiquement, c'était rompre la neutralité, c'était arriver sur le terrain politique, se confronter à un gouvernement sur son propre territoire, c'était inacceptable pour une ONG, précisément au nom de l'impérieux devoir de se tenir auprès des victimes et de s'envelopper dans le principe de neutralité.
Mais il y a aussi ce questionnement sur la responsabilité, hein, tout au long de votre vie, à travers aussi bien votre travail que vos écrits, et même un film que vous avez tourné, question de récupération, d'indépendance, l'intention, et vous citiez justement le nom d'un homme tout à l'heure parmi vos inspirateurs, c'est Zvetan Todorov, historien, théoricien, auteur, hein, disparu en 2017. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de l'émission La Grande Table de France Culture. Zvetan Todorov y évoque le droit d'ingérence.
Cette nouvelle situation, effectivement, date des années 1990, c'est-à-dire de la fin de la guerre froide et de la disparition de l'Union soviétique et du camp communiste. Et à partir de ce moment, s'est développée une idéologie de l'intervention humanitaire à laquelle je n'adhère pas. J'ai le sentiment que ces interventions n'ont pas été couronnées de succès, que la situation en Afghanistan aujourd'hui n'est pas vraiment satisfaisante et qu'avec le départ de l'armée américaine, tous les problèmes seront reposés de nouveau. Je pense que la situation après l'intervention en Irak, on n'est toujours pas stabilisé. En Libye, de même. La raison de ces difficultés me semble être le moyen utilisé. L'intervention militaire, l'occupation, qui en réalité crée plus de problèmes qu'elle ne résout.
RFI. Une critique à la fois sévère et très calme, hein, dont le ton de Zvedan Todorov. Vous dites que son travail vous a aidé, Ronnie Broman, à orienter vos propres réflexions. Il parle notamment de la tentation du bien que vous évoquiez tout à l'heure. On va dire un bel idéal, mais une réalité catastrophique. C'est quelque chose que vous avez retrouvé sur plusieurs terrains, y compris quand vous étiez soignant.
Peut-être...
Ou c'est quelque chose de plus récent qu'on a vu se développer avec ces fameuses guerres humanitaires?
Oui, c'est cela même, et d'ailleurs Todorov le rappelle à juste titre, c'est avec la fin de la guerre froide et les nouvelles possibilités d'intervention armée internationale que le droit d'ingérence, enfin le supposé droit d'ingérence, car c'est un abus de langage de parler de droit d'ingérence, il n'y a jamais eu de droit à faire effraction chez quelqu'un d'autre. Sauf pour des policiers qui disposent d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de perquisition et qui sont autorisés à ce moment-là à rentrer par la force. Mais on est dans un cadre très, très particulier, sinon il n'existe pas, à proprement parler, de droit d'ingérence. Mais justement, il y a eu une imprécision assez problématique concernant ce terme. Le droit ou le devoir d'ingérence, d'ailleurs, il faut remarquer que droit et devoir, en l'occurrence, sont confondus, sont presque interchangeables, alors que tout de même, ce ne sont pas les mêmes notions qui sont mobilisées. Mais disons, droit ou devoir d'ingérence, dans les années 70, ça voulait dire quelque chose de différent des années 80 et encore de différent dans les années 90.
Alors, on va marquer une pause, hein, si vous le voulez bien, Ronnie Broman. Un duo musical que vous avez choisi, duo de blues, Sonny Terry et Bronnie McGee, avec ce titre, Walk On.
Yes, I am.
Du blues, c'est votre choix, Ronnie Broman. On continue d'évoquer votre parcours, votre cheminement. Dans ce portrait de priorité santé sur RFI, on a parlé de la médecine humanitaire. Pour vous, c'est pas forcément l'engagement de toute une vie. On peut donner quelques années, pour beaucoup, sa jeunesse, passer à autre chose. Pourtant, vous, Ronnie Broman, vous êtes, on l'a compris, allé sur d'autres terrains. Malgré tout, vous n'êtes pas passé à autre chose. Pourquoi ?
Sans doute du fait des circonstances. Je suis rentré à Médecins Sans Frontières quand cette organisation était pas encore une organisation, mais une toute petite association avec un salarié, enfin une salariée et demie. Je dis et demie parce que l'autre, il y avait un mi-temps.
Et à passer jusqu'à une organisation de plusieurs centaines de personnes.
Oui, c'est ça.
Une grosse machine.
Je suis rentré au moment où ce type d'activité prenait un essor considérable. Donc il y a eu à la fois l'engagement dans la construction d'une association puis d'une organisation capable d'assurer à des équipes médicales lointaines le soutien, les cadres professionnels et techniques leur permettant d'accomplir leur travail. Mais il y a aussi la reprise de l'aide humanitaire internationale dans des champs de force politiques. Il y a aussi une réflexion sur les limites de ce que la médecine peut accomplir dans certaines situations. Bref, il y avait un mélange d'intérêts d'activistes, cette construction collective, parce que ça a été vraiment des travaux d'équipe, cette construction collective soutenue par le public était en soi enthousiasmante, parce que d'année après année, on faisait des progrès, on améliorait des choses, on connaissait quelques revers, mais on rebondissait vers autre chose. Bref, c'était vraiment extrêmement dynamisant, extrêmement motivant. Et puis, il y avait les problèmes, disons, d'ordre éthique, politique, intellectuel, que cela posait. Et il y avait donc à la fois l'intérêt de faire quelque chose qui serve, qui soit utile à des gens qu'on ne connaît pas, mais dont on connaît la situation malheureuse, et puis aussi l'intérêt intellectuel de progresser sur un terrain mal balisé, mal connu, qui fait surgir de nouveaux problèmes que l'on compare à d'autres. Bref, il y avait un intérêt surajouté. Et cette jonction-là a fait que, sans qu'il y ait la possibilité de se projeter dans l'avenir, parce que je ne savais pas quel serait le futur de Médecins sans frontières, bien année après année, l'intérêt se renouvelait. Et quand j'ai quitté la présidence de Médecins sans frontières en 94, bon, c'était pour enseigner, faire des films, et Médecins sans frontières a souhaité que je continue mon cheminement à leur côté sur une base de temps partiel. Et donc, j'ai continué à aider MSF à la formation ou à l'animation de sa réflexion interne, parce que je trouve cela passionnant, que c'est un milieu... Je n'ai pas que des amis, évidemment, là-dedans. J'ai des positions parfois tranchées qui suscitent de l'animosité, mais je n'ai jamais eu à subir de coups bas, de choses difficiles, comme par exemple en politique. On a à endurer cela en politique. Le danger vient de vos amis. Vos adversaires, vous les connaissez, vous les identifiez, c'est simple. Ils ne peuvent pas, d'une certaine manière, vous abattre. Ceux qui peuvent vous abattre, ce sont vos amis. Et ça, ce serait quelque chose de psychologiquement insupportable pour moi. Je ne suis pas équipé pour ça. J'ai pas le cuir assez dur. Et donc, ça n'a jamais été une tentation pour moi, la politique. C'est un sujet d'intérêt. Et j'estime qu'on peut faire de la politique en dehors d'une profession politique.
Ça s'appelle peut-être simplement réfléchir.
Ça s'appelle aussi réfléchir, et peut-être aussi réfléchir en public, parce que il y a de la politique à partir du moment où il y a quelque chose sur la scène publique, dans l'arène publique, pas forcément des prises de position, mais des actions, quelque chose qui se passe là. Et c'est à cette place-là que je me sens le mieux.
MSF, édifice en construction, avec des étapes bien sûr. 1999, c'est le prix Nobel de la paix. Encore un document d'archives, hein, 20 ans exactement en arrière.
Une porte s'ouvre, les flashs crépitent. Il est 11h vendredi à Oslo. Le prix Nobel de la paix est attribué à une organisation qui soigne dans l'urgence, sans discrimination et en toute indépendance.
Médecins sans frontières.
Au siège de MSF, la joie est à la hauteur de la surprise. Surprise car de nombreux pronostics donnaient les opposants chinois probables lauréats.
C'est surtout ce prix Nobel, c'est aussi pour tous les gens qui sont sur le terrain, tous les volontaires qui sont en train de travailler sur le terrain avec les populations.
En quelques minutes, les messages de félicitations, d'où qu'ils viennent, s'accumulent.
Il est heureux que ces gens qui incarnent en quelque sorte un progrès de la conscience universelle soient aujourd'hui récompensés. J'en suis heureux.
Les organisations non gouvernementales ont joué un rôle extrêmement important dans la progression des idées d'ingérence humanitaire. Et donc on fait progresser le droit international dans la pratique.
Reportage de France 2, on a reconnu les voix de Jacques Chirac, alors président, Lionel Jospin, Premier ministre. Ce prix Nobel, Ronny Broman, est-ce que cette consécration a fait du bien à MSF ?
Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Je suis, disons, partagé.
Est-ce qu'on peut parler d'un cliché des French Doctors ?
Oh oui, certainement, oui, c'est un cliché français d'ailleurs, dans le franglish que certains affectionnent.
Avec mon accent, on n'en doute pas en tout cas. Hein. Mais oui, ça, c'est quelque chose qui vous agace ?
Non, ça m'est égal. Non, je trouve que je m'y suis habitué. Enfin, c'est Chirac parle des progrès de la conscience universelle et quelque chose d'un peu grandiloquent en quoi je me reconnais pas du tout. Mais disons, c'est une appréciation un peu générale. Jospin, lui, choisit de donner une illustration plus précise de ce que Médecins sans frontières faisait, et il choisit l'ingérence, qui est précisément...
Ce qui ne vous plaît pas forcément.
Le thème, voilà. Et ça, c'est le genre de malentendu auquel je me suis heurté pendant tout mon parcours.
Oui, mais en même temps, vous aimez ça, vous aimez le débat.
J'aime la discussion, bien sûr, oui. Mais disons que c'est une leçon d'humilité constante, parce que cela rappelle que bien que Bernard Kouchner soit parti de Médecins Sans Frontières depuis 1978, quand même,
on l'associe toujours. Hein.
Voilà, ça faisait déjà 21 ans qu'il était parti au moment du prix Nobel sur 26 ans d'existence. C'était quand même. Et aujourd'hui encore, 45 ans après, le même genre d'incident peut se produire. Ce qui fait qu'on sait qu'on pousse son rocher de Sisyphe, mais que celui-ci est toujours sur le point de redégringoler à peine vous l'avez lâché.
Bon, alors, on n'utilise pas le mot d'ingérence, on va plutôt parler d'intervention en urgence, mission en contexte de catastrophe ou de conflit. Puis il y a aussi, ça, le grand public l'ignore aussi. Si souvent, des combats de fond, par exemple la lutte pour l'accès aux médicaments. Et pour en parler, entre autres, hein, Ronnie Broman, on va rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien.
RFI.
En ligne, on retrouve le docteur Bernard Pécoul. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'initiative médicaments contre les maladies négligées. Vous avez été directeur de MSF hein, durant la présidence de Ronnie Broman. Alors une première question sur peut-être votre première rencontre avec Ronnie Broman. Quel souvenir en gardez-vous ?
Alors ma première rencontre avec Ronnie Broman s'est déroulée au Honduras en 1983. Où j'étais médecin travaillant dans les camps de réfugiés. Ronnie était déjà un leader de l'organisation. Donc il m'a déjà beaucoup impressionné par sa connaissance de la région, son intérêt sur la situation politique de l'Amérique centrale à l'époque, qui nous avait permis de beaucoup mieux comprendre un contexte extrêmement difficile dans la guerre qui régnait à ce moment-là en Amérique centrale.
Après l'Amérique latine, docteur Bernard Pécoul, vous êtes retrouvé sur quel autre terrain ?
Moi, j'ai continué vers l'Asie, où là aussi j'ai eu le soutien de Ronnie, mais après je suis retourné au siège à Paris, au début comme médecin épidémiologiste, et à ce moment-là, Ronnie m'a invité à le rejoindre dans l'équipe de direction de MSF. Donc je suis devenu le directeur en 1991 de Médecins Sans Frontières au moment où Ronnie était président.
Est-ce qu'il y a des moments qui retiennent particulièrement votre attention, non seulement des moments, on va dire, de l'histoire de MSF, mais aussi en tant que soignant ?
On a traversé beaucoup de crises en commun, donc des situations comme la Somalie, donc l'énorme famine qui régnait en Somalie au moment de début des années 90, la complexité de la crise yougoslave, toute l'approche du Rwanda. Donc on a vécu de nombreuses situations très complexes, mais disons qu'on a pas mal travaillé ensemble sur l'approche aussi des camps de réfugiés, améliorer la santé dans les camps de réfugiés, pour surtout aborder la réduction de mortalité qui était toujours très importante pendant la phase aiguë notamment des camps de réfugiés.
Pour que les auditrices et les auditeurs se fassent une idée, comment ça se passait ? On imagine des tentes où il y avait des soins, des centres, des structures. Et cet espace de débat, il se passait quand ? Après le moment des soins, il y avait des sortes de débriefings, de mise au point. Comment ça se passait justement, cette interaction entre soigner et comprendre le contexte ?
Pendant la journée, on soignait, hein, parce que dans les camps de réfugiés, le nombre de consultations est très élevé, il faut aussi faire la prévention, donc il y avait une grosse activité de soins. Mais il y avait aussi une tension, il y avait des gens qui disparaissaient des camps et qui en fait étaient tués à la frontière, là je fais allusion au Honduras. Donc il fallait aussi comprendre pourquoi ces gens étaient là et qu'est-ce qui faisait en sorte que l'insécurité régnait et que beaucoup de choses nous échappaient. Donc la compréhension de l'environnement est fondamentale.
Médecins Sans Frontières, hein, on le sait, c'est une organisation où se sont côtoyées des personnalités très fortes. Un certain nombre d'entre elles d'ailleurs sont passées du soin à la politique. Des personnes qui n'hésitaient pas à exprimer leur désaccord. Comment ça se passait ? Dialogue, débat ou clash ?
Le grand clash a eu lieu surtout à la fin des années 70. Au moment où il y a eu le départ de Bernard Kouchner et d'autres, et la création de Médecins du Monde, qui au début était l'organisation, on va dire, concurrente, qui, à l'époque où moi j'étais à Médecins Sans Frontières, était une organisation avec laquelle on collaborait.
Alors justement, toutes ces années passées à Médecins Sans Frontières, avoir côtoyé Ronnie Broman, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, pour une jeune génération, il fait office de mentor ? Je fais référence en particulier aux relations qu'il peut avoir avec des étudiants.
Oui, je pense que Ronnie, bon, c'est un grand humaniste, mais c'est quelqu'un aussi de très simple d'approche et très disponible pour les gens. Tout récemment, je l'ai vu fonctionner avec des étudiants à Genève. Il est venu donner une conférence pour une vingtaine d'étudiants qui s'intéressaient au sujet. Et il a su se rendre disponible le restant de la soirée avec les étudiants. aux dépens de ses amis comme moi qui attendaient qu'ils se rendent disponibles pour prendre un verre avec nous.
Alors justement, on va rester sur cette veine de la critique. On parle des qualités des personnes. Du côté des défauts, s'il vous en vient un ou deux à l'esprit, ce seraient lesquels ?
Si un défaut que je pourrais mettre en avant, c'est que Ronnie est parfois un peu complexe, c'est-à-dire que si on n'a pas toute l'information nécessaire pour comprendre son raisonnement, parfois c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est parfois plus facile de lire ses raisonnements, puisque ça laisse le temps de la réflexion. Sinon, moi je n'ai connu qu'un personnage super sympathique avec lequel j'ai adoré travailler.
Ben, j'espère qu'on va vous confirmer sur votre dernier point et qu'on va vous démentir sur le précédent, qu'il y aura une grande compréhension à l'oral des propos de Ronnie Broman. Merci beaucoup, docteur Bernard Pécoule, d'avoir répondu à nos questions.
Merci, au revoir.
Merci, très bonne journée, au revoir. Je parlais tout à l'heure de cette campagne pour l'accès aux médicaments qui est aujourd'hui au cœur du travail de votre confrère Bernard Pécoule. On peut dire qu'on a dressé ce tableau au travers des conflits de ces 30 ou 40 dernières années, mais il y a eu aussi des initiatives de la part de ces humanitaires qui ont vraiment changé la donne. Là, je pense justement à ces médicaments, l'accès aux médicaments, quand on voit les antirétroviraux, quand on voit l'accès à certains traitements, par exemple contre la tuberculose, on peut dire que les ONG, que les humanitaires, dans ce cadre précis, ont eu un rôle déterminant. Terminons, Ronnie Broman.
Un rôle de révélateur, de lanceur d'alerte, mais aussi un rôle d'acteur, par exemple, pour la question du sida. MSF, comme Oxfam, comme Médecins du Monde, d'autres, ont joué un rôle important pour tenter de faire parvenir dans le Sud des médicaments qui étaient réservés au tout début, en tout cas uniquement aux patients et même pas à tous les patients dans le Nord. Donc ça, c'était déjà un rôle important. Mais si on a pu le faire, c'est aussi parce que, par exemple, à Médecins Sans Frontières, on était capable, et ça a été un motif de fierté, je crois, tout à fait légitime, on était à la fois capable de développer des analyses. Là, je ne parle pas du tout de moi, c'était pas du tout moi qui s'occupais de... Je ne m'occupais pas du tout, enfin pas directement de cela. Développer des analyses sur le coût des médicaments, sur l'économie générale du médicament, sur l'injustice qu'il y avait. Et l'injustice et le risque, parce que ça n'était pas seulement injuste, c'était aussi dangereux de garder les médicaments au Nord quand la plupart des malades étaient au Sud. Donc ça, c'était un peu, disons, le discours public de Médecins Sans Frontières et d'autres ONG. Mais là où MSF montrait une force particulière dont il y a lieu de tirer légitimement fierté, c'est que à l'autre bout de la chaîne, sur le terrain, dans des hôpitaux, dans des dispensaires, dans les régions affectées par l'épidémie, on avait aussi des équipes qui avaient pour objectif, enfin dont l'enjeu primordial était de montrer qu'il était possible d'utiliser avec profit les antirétroviraux, car un contre-discours était produit par les laboratoires, les compagnies pharmaceutiques, qui, de peur de devoir fabriquer du générique ou devoir leur propriété, donc céder effectivement les brevets pour cause d'urgence sanitaire, expliquaient que l'emploi des antirétroviraux sur le terrain pour des populations qui en partie étaient analphabètes, non éduquées, en tout cas, en ferait un très mauvais usage.
En gros, ils disaient que les patients n'étaient pas à la hauteur, ce qui a été totalement démenti sur le terrain.
Voilà.
Parce que les gens ont bien pris leur traitement et ça a sauvé une grande partie des personnes malades.
Ah oui, ça a été absolument spectaculaire. C'était vraiment, ça aussi, c'était quelque chose de vraiment enthousiasmant pour des équipes soignantes qui voyaient arriver des gens décharnés, extrêmement faibles, souffrants de partout, avec des syndromes multiples qui prospéraient à tout moment, et qui, deux mois plus tard, ces mêmes personnes, deux mois plus tard, étaient debout, avaient repris du poids, de l'énergie, étaient capables de travailler, d'avoir une vie sociale, familiale, économique, bref, qui renaissaient à la vie. Ça, c'est vraiment la récompense des soignants. Mais ce qu'il importait là de dire, c'était que il y avait une espèce de discours condescendant, à la limite du racisme, enfin en tout cas très paternaliste, au terme duquel ces gens qui étaient finalement de grands enfants n'étaient pas capables de comprendre les contraintes d'un traitement qui doit se prendre quotidiennement, à heure fixe, de façon vraiment régulière, avec des surveillances elles aussi régulières, alors que les gens comprenaient parfaitement, aussi bien au fin fond du Malawi ou du Kenya que de la France ou du Canada ou des États-Unis, qui avait pas de différence du tout de ce point de vue-là. Donc ça a été vraiment la contribution très importante, notamment de MSF, pas seulement, mais notamment de MSF. Et MSF avait pour particularité d'être présent tout au long de cette chaîne, disons, militante, dans les congrès, dans les conférences de presse, sur la scène publique d'un côté, et dans les dispensaires et hôpitaux, sur le terrain de l'autre. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement fort.
On arrive à la conclusion. Justement, sur ces contextes d'urgence, ces contextes de crise, on comprend bien que ça pose de nouvelles questions en termes sécuritaires, en termes sanitaires, notamment en termes d'accès aux traitements et aux soins. Est-ce que, justement, cet environnement de crise est forcément associé à une baisse d'exigence en termes éthiques, ou est-ce que c'est finalement le défi de l'humanitaire de ne jamais baisser la garde sur ce plan de l'éthique ?
Disons que, oui et non, oui, le défi, enfin, disons, la force morale des humanitaires, c'est de tenter, en tout cas, de ne jamais baisser les bras, de ne pas renoncer à ce qui est vraiment le cœur de leur engagement, de leurs objectifs. Mais il faut prendre garde aussi au sentiment de toute puissance qui peut saisir des gens comme ça, qui, du simple fait qu'ils pensent, souvent à juste titre, représenter un bien, alors rien ne doit s'opposer à leur marche en avant, les frontières doivent être baissées, les barrières doivent être levées, tout doit céder devant eux. Et on en arrive vite à une certaine arrogance, voire
quand
une
condescendance. Quand on croit avoir raison, on a du mal à rester humble, à rester modeste.
Voilà, c'est ça. Et l'humanitaire se prête facilement à ce genre de sentiments, à ce genre de démarche intellectuelle. On est le bien et le bien ne se discute pas. Il se pratique, mais il ne doit pas être mis en question. Or, précisément, si, il doit être mis en question. Et quels que soient les terrains sur lesquels on agit, des questions se posent qui ne sont pas seulement des questions relatives à des comportements brutaux de la part de ceux qui veulent nous empêcher d'agir, les méchants, si vous voulez, les bad guys que l'on repère facilement. Des questions se posent aussi à nous sur un certain nombre de comportements, de pratiques, de façons de faire qui méritent d'être questionnées. C'est d'ailleurs l'une de mes activités avec d'autres à Médecins Sans Frontières.
René Broman, on peut être humanitaire sans être manichéen?
Je crois qu'on l'est mieux. Je crois que quelle que soit l'activité que l'on pratique, on s'y sent mieux et on la pratique mieux si on ne voit pas le monde en noir et blanc, mais si on comprend les continuités aussi, les ruptures naturellement, mais les continuités qu'il y a entre les deux.
Merci beaucoup, docteur René Broman, d'avoir partagé ce moment avec les auditrices et les auditeurs de Priorité Santé. Pour celles et ceux qui veulent poursuivre cette réflexion, je rappelle le titre de votre ouvrage publié aux éditions Textuelles, « Guerres humanitaires, mensonges et intox ». On va se quitter avec du blues encore, Johnny Lee Hooker, sur l'introduction de Hard Times, que l'on va remercier toute l'équipe qui a préparé, réalisé cette émission. Assetou Samaké, Fabien Mugneret, Didier Bleu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle rencontre, nouveau portrait dans Priorité Santé.
Don't you know Hard Times? Can't you see hard times are here to stay? You know hard times seem like they're here to stay. Hard times, oh boy, don't you know it's worse. Got no shoes on my feet.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.